En persan, on dit pas la nostalgie. On dit در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. C'est comme si le poète parlait à sa patrie. Même exilé, son dernier souhait est de revenir. Et il rend son dernier souffle avec l'espoir qu'un jour, il puisse de nouveau appartenir à la terre qu'il a vu naître. Dans notre dernière émission, nous avons parlé de la Perse antique, de la grandeur de l'Empire achéménide et du riche héritage culturel de l'Iran. Mais l'histoire de l'Iran ne s'arrête pas à l'Antiquité. Au fil des siècles, le pays a connu des périodes de prospérité, mais aussi des guerres, des difficultés et de grands changements. Aujourd'hui, nous allons parler d'une période très importante de l'histoire moderne de l'Iran. La fin de la dynastie Qajar et l'arrivée au pouvoir de la dynastie Pahlavi, une période qui a profondément changé le pays. Notre invité aujourd'hui est Sepideh Neydavood, une militante engagée qui répondra à nos questions tout au long de cette émission. Bienvenue dans Les Enfants de la Lumière.
میسازیمش با عشق میزنیم جوونه ایران ایران خونمونه خاکم ایران دونمونه ایران ایران خونمونه جابید ایران جابید شب ایران ایران خونمونه خاکم ایران خونمونه ایران ایران خونمونه
Au début du XXe siècle, l'Iran traversait l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Le gouvernement central était très faible. Pendant la Première Guerre mondiale, même si l'Iran était resté neutre, le nord du pays fut occupé par la Russie et le sud par le Royaume-Uni. L'Iran n'avait pas de véritable armée pour défendre son territoire. Le système de santé publique était inexistant. Des maladies comme le typhus, le choléra, la variole, le paludisme et les infestations de peau se propagèrent dans de nombreuses régions. La plupart des habitants ne savaient ni lire ni écrire, et les femmes avaient très peu accès à l'éducation. Dans une grande partie du pays, il n'y avait ni électricité, ni eau courante, ni hôpitaux modernes, ni véritables services publics. De nombreux historiens estiment que, dans les dernières années de la dynastie Qajar, l'Iran faisait face à plusieurs grandes crises en même temps. La sécurité, l'économie, la santé, l'éducation, le mauvais fonctionnement de l'État Qajar et l'influence des puissances étrangères. L'Iran était épuisé. Des années de guerre, de famine, de maladies et d'insécurité avait profondément marqué la population. C'est à cette époque qu'un militaire fit son entrée sur la scène politique. Reza Khan, connu sous le nom de Reza Mirpanj. Il arriva avec une idée simple, rétablir l'ordre. Pour lui, la priorité était que le pays puisse se relever et retrouver sa force. À cette époque, Ahmad Shah, le dernier roi Qajar, était toujours au pouvoir. Mais il passait la plus grande partie de son temps en Europe et ne dirigeait presque plus le pays. Les mois passèrent, puis les années. Ahmad Shah ne revint jamais en Iran. Finalement, de nombreux responsables politiques, des députés et plusieurs personnalités influentes estimèrent que l'Iran ne pouvait plus rester dans cette situation. En 1925, la dynastie Qajar prit fin. Reza Khan fonda la dynastie Pahlavi et devint Reza Shah Pahlavi. À son arrivée au pouvoir, le pays était dans un état déplorable. presque tout était à refaire. C'est sans doute pour cette raison que, dans les années qui suivirent, l'Iran entra dans une période de modernisation sans précédent. À cette époque, personne n'imaginait que cet homme allait un jour changer le destin de l'Iran.
Mais la question la plus importante est peut-être la suivante. Qu'est-ce que Reza Shah a réellement changé? À cette époque, l'Iran avait avant tout besoin d'ordre. La première décision fut de créer une armée moderne et unifiée, capable de défendre les frontières du pays. Peu à peu, les voyages du nord au sud de l'Iran devinrent plus sûrs. Mais les changements ne concernaient pas seulement l'armée. Pour la première fois, les Iraniens reçurent une carte d'identité officielle. À l'époque, c'était une réforme très importante. De nouvelles routes furent construites, de grands ponts furent bâtis et le chemin de fer transiranien relia le nord et le sud du pays. Aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des plus grands projets de construction de l'histoire de l'Iran. En même temps, la Banque nationale, des nouvelles usines et des infrastructures économiques furent créées. Le développement industriel du pays s'accéléra. Dans le domaine de l'éducation, de nombreuses écoles furent ouvertes et l'université de Téhéran, la première université moderne de l'Iran, fut fondée. Le droit de la famille fut également réformé. L'enregistrement officiel des mariages devint obligatoire et un âge minimum légal pour le mariage fut fixé afin de limiter les mariages d'enfants. L'une des décisions les plus controversées de Reza Shah fut l'interdiction du voile. Cette mesure fut imposée par l'État. Certains la considéraient comme un pas vers la modernisation du pays, tandis que d'autres y voyaient une intervention du gouvernement dans les choix des vêtements des femmes. En moins de 20 ans, le visage de l'Iran avait profondément changé. Un pays qui avait longtemps été marqué par l'insécurité, le désordre et la faiblesse de l'État possédait désormais des routes, un chemin de fer, une université moderne, une armée moderne et des administrations et des infrastructures dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Environ 2 ans après le début de son règne, Reza Shah commença à réduire l'influence de l'Union soviétique et du Royaume-Uni en Iran. L'une des questions les plus importantes était le pétrole. Après plusieurs années de négociations, un nouvel accord fut signé en 1933 avec l'Anglo-Iranian Oil Company. Grâce à cet accord, la part des revenus et des redevances versées à l'Iran passa d'environ 10% à 15%, soit une augmentation par rapport au contrat précédent. Mais cette période ne dura pas aussi longtemps que Reza Shah l'espérait. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran déclara une nouvelle fois sa neutralité. Mais cette fois encore, les alliés refusèrent de la reconnaître en raison de la position stratégique de l'Iran et de ses ressources pétrolières. En août 1941, les armées britanniques et soviétiques entrèrent en Iran, l'une par le sud, l'autre par le nord. Quelques semaines plus tard, sous la pression des alliés, Reza Shah fut contraint d'abdiquer. Il transmit le trône à son fils, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Peu après, Reza Shah fut envoyé en exil. Il fut d'abord transféré sur l'île Maurice, dans l'océan Indien, puis à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'homme qui avait consacré 15 années à construire l'Iran ne revit jamais son pays. C'est en 1944 que Reza Shah mourut en exil, loin de sa patrie, en Afrique du Sud. Mais l'histoire de la dynastie Pahlavi n'est pas terminée. Une nouvelle page s'ouvrait avec son jeune fils, Mohammad Reza Shah Pahlavi, qui allait désormais prendre la tête de l'Iran. Mohammad Reza Shah prit la tête d'un pays encore occupé par les forces alliées. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il lança un vaste programme de développement et de modernisation. La construction d'usines, de barrages, de routes, de ports, d'aéroports et de nouvelles villes se poursuivit. L'industrie pétrolière se développa également. Les raffineries furent agrandies et l'Iran devint l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. En même temps, de nouvelles universités, des écoles, des hôpitaux, ainsi que des réseaux d'électricité et d'eau furent construits dans tout le pays. Beaucoup de villes prirent un visage plus moderne. Dans les années 60, Mohamed Reza Shah lança un programme appelé la Révolution blanche, également connu sous le nom de la Révolution du Shah et du peuple. Son objectif était de moderniser l'économie et la société iranienne. Les principales réformes comprenaient la réforme agraire, la nationalisation des forêts et des pâturages, le partage des bénéfices des usines avec les ouvriers, la vente d'actions d'entreprises publiques, le droit de vote des femmes, la création du corps du savoir pour lutter contre l'analphabétisme, ainsi que le corps de la santé et le corps du développement rural, la sécurité sociale pour tous, l'éducation obligatoire jusqu'en troisième et gratuite jusqu'à la fin des études supérieures. Ces réformes transformèrent la vie de millions d'Iraniens et accélèrent l'industrialisation et le développement des infrastructures du pays. Cependant, certaines de ces mesures et leur mise en œuvre furent également critiquées. Nous allons écouter une petite transition musicale qui parle de désir et d'amour. Dar Arezuye To Basham.
که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم به مجمعی که در آید شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم نظر به سوی تو دارم
En 1973, lors d'une interview télévisée avec un journaliste britannique, Mohamed Reza Shah défendit la décision de l'Iran d'augmenter le prix du pétrole. Lorsque le journaliste lui dit que de nombreuses Britanniques n'avaient plus les moyens de payer le chauffage de leur maison, le Shah répondit « Pourquoi mon peuple devrait-il payer pour le chauffage des Britanniques ?» Les Britanniques n'ont qu'à travailler une demi-heure de plus par jour pour payer leur chauffage. Pour le Shah, l'Iran devait recevoir le véritable prix de son pétrole. Il ne voulait plus d'accepter des accords qui profitaient surtout aux puissances étrangères. Mais dans les années qui suivirent, la situation politique en Iran devint de plus en plus tendue. Plusieurs groupes s'opposaient au gouvernement. Parmi eux se trouvaient des mouvements religieux, des organisations de gauche comme le Parti Today, ainsi que des groupes armés comme l'Organisation des Moudjahidines du Peuple et les Fadaïens du Peuple. Chacun poursuivait ses propres objectifs. Certains menèrent des attentats, des explosions et des assassinats. De son côté, le gouvernement répondit par une politique de sécurité très ferme. Les partisans du régime estimaient que ces mesures étaient nécessaires pour protéger la stabilité et la sécurité du pays. Ses opposants En revanche, les considérer comme une limitation des libertés politiques. Finalement, un ensemble de facteurs internes et externes conduisent à la chute de la monarchie iranienne en 1979. Pour parler de cette période, nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée Sepideh Neydavoud. Elle est titulaire d'un master en études du Proche et du Moyen-Orient et spécialité persan, ainsi que d'un DOA en linguistique française. En parallèle de son parcours universitaire, elle est également militante politique. Elle est l'une des principales organisatrices de nombreuses manifestations de la diaspora iranienne, du mouvement Femme, Vie, Liberté, jusqu'à rassemblement du mouvement du Lion et du Soleil. Bonjour Sepideh, bienvenue dans Les Enfants de la Lumière et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, bonjour Sophia, bonjour Chab, merci de m'avoir invitée. Bonjour à vos auditeurs et auditrices.
Bonjour Sepideh, merci et bienvenue.
Nous avons parlé de l'histoire de l'Iran moderne, de ses transformations et des événements qui ont marqué son destin. Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses manifestations en Iran. Beaucoup d'Iraniens demandaient un changement de régime et souhaitaient mettre fin à la République islamique. Par ailleurs, le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, est considéré par une partie des Iraniens comme alternative pour la période de transition. Il a également présenté publiquement son projet qui prévoit de laisser le peuple iranien choisir par référendum le système politique qu'il souhaite pour l'avenir du pays. Pouvons-nous dire qu'au moment de la révolution de 1979, de nombreux opposants au Shah n'avaient pas une vision claire du régime qui allait remplacer la monarchie?
Oui, tout à fait. On peut dire ça parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants, des jeunes opposants de l'époque. Et ils disaient tous que quand le Shah est parti et l'État a complètement changé et que Khomeini a pris le pouvoir, ils étaient tous très surpris. Ils ne s'y attendaient pas du tout à un changement de régime. Ils voulaient juste quelques réformes, notamment avoir plusieurs partis politiques, etc. Ce sont des témoins vivants qui en discutent aujourd'hui, qui disent, qui confirment que non, à l'époque, il n'était pas question de changer de régime. Et d'ailleurs, la première fois qu'ils ont reçu les discours et les cassettes de l'ayatollah Khomeini venu arriver de France, c'était par leur prof de français à l'université, qui était d'ailleurs un Français, qui leur a mis ça entre les mains en leur disant c'est quelqu'un, l'ayatollah Khomeini, qui est réfugié en France et voilà ses discours, etc. Donc oui, je confirme en fait ce qui est dit dans votre énoncé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire une opinion personnelle, parce que pour moi, ce qui s'est passé en 79 n'est pas une révolution, mais une insurrection. Parce qu'une révolution, ça vient du peuple, ça vient de l'intérieur, ça vient du peuple, et pour une bonne raison. Comme la Révolution française, comme on a l'habitude de comparer malheureusement ce qui s'est passé en 79 en Iran avec la Révolution française. La Révolution française, les gens avaient faim, mais vraiment faim. Et ils ont renversé le roi, ils l'ont décapité, et puis ils ont instauré la République. Donc ça, c'était une révolution. Mais ce qui s'est passé en Iran à cette époque-là, pour moi, ce n'était pas une révolution, d'autant plus que les étudiants qui étaient concernés disaient non, on voulait juste un changement, quelques réformes. Mais là, ce qui s'est passé, c'était géré de l'extérieur. Il faudrait développer et on n'a pas vraiment beaucoup de temps dans ces émissions pour développer tout ça.
Oui.
Dans un pays où il y avait une croissance à deux chiffres, je suis désolée, les gens ne pouvaient pas avoir faim. Et le pays faisait 3,5 fois la France et se développer avec une vitesse rapide. Mais évidemment, quand on peut voir des vidéos de l'Iran de l'époque où les gens sont pauvres, ils ont faim, ils font ces vidéos-là, je peux aller aujourd'hui à l'extérieur de Strasbourg faire quelques vidéos des bidonvilles, des sans-abri, etc. et dire voilà la France d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas généraliser.
Ils ont dramatisé la situation en Iran et ils ont enjolivé le personnage de Khomeini pour le faire arriver
exactement.
Chez nous.
Mmh. Exactement. Et donc, voilà ce que moi je peux dire, c'est mon avis personnel. À l'époque du Shah, on avait choisi, enfin, il y avait quelqu'un qui a été mis en place pour gérer le pays. De façon correcte hein, par le Parlement à l'époque quand Reza Khan a pris le pouvoir, il est devenu roi. Donc, pour gérer le pays, le Shah d'Iran, Mohammad Reza Shah, il gérait le pays, il faisait de l'argent intelligemment et il distribuait, redistribuait de façon directe ou indirecte au peuple. Et effectivement, il avait peur du communisme comme partout, comme tout le monde, hein, comme tout l'Occident. Il avait choisi de faire affaire avec les Américains, les Français, enfin avec l'Occident, et pas avec la Russie. Et la Russie, on a vu ce qui s'est passé. Mmh. Et on peut dire tout ce qu'on peut, mais on a vu que aujourd'hui, on peut voir que les gens de gauche de l'époque, ils disent, la plupart, ils disent qu'on a menti. On a dit qu'il y avait 100 000 prisonniers politiques, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y avait, il y avait 2 000, 3 000. Mmh. Et les prisonniers politiques de l'époque du Shah sont ceux qui ont pris le pouvoir après 79, et on a vu ce qu'ils en ont fait. En fait, c'était des gens qui n'avaient pas le pouvoir pour devenir des dictateurs. Et ils sont devenus dictateurs une fois qu'ils ont pris le pouvoir.
Oui, tout à fait. On qualifie souvent Reza Shah de père de l'Iran moderne. Selon vous, doit-on le considérer avant tout comme un réformateur ou comme un dictateur?
C'est une très bonne question. Je dirais que dans un pays, quand un pays se trouve dans une situation de l'Iran à la fin de la dynastie Qajar, comme je pense que vous l'avez énuméré dans l'introduction, dans quel état pitoyable se trouvait l'Iran, je pense que pour faire des réformes, il faut être un peu dictateur. Autrement, ça marche pas. Je vous donne un exemple. Reza Shah a mis en place l'état civil en Iran. Jusqu'à là, les gens n'avaient pas de nom de famille. Et le clergé avait interdit que les prénoms des femmes soient divulgués à d'autres hommes. C'était interdit, il fallait pas. Les femmes, on pouvait pas les appeler avec leur prénom, déjà qu'on n'avait pas de nom de famille, et on pouvait pas les appeler par leur prénom, c'était interdit. C'était pire que si elles se dévoilaient, sortaient sans voile, voyez. Donc, on pouvait les appeler par, on aurait dit la maman plus suivie du prénom de son premier fils. Et si elle n'avait pas de fils, on disait la femme de monsieur un tel. Donc, les femmes étaient inexistantes. Avec ça, les Ocha a donné une identité à une femme. Une femme, par exemple, qui s'appelait Pavin et Tessami, avant cela, ne pouvait pas s'appeler Pavin et Tessami. une poétesse très connue. Donc, pour faire ce genre de réforme, quand on a un clergé en face qui interdit tout, qui va contre toutes les décision qui allait vers la modernisation, eh bien là, il faudrait être un peu dictateur. Je pense que dans la procédure d'élever un enfant, tout parent, il lui arrive d'être un peu dictateur pour empêcher son enfant d'aller vers le danger. Moi, si j'ai mon enfant qui est en train de sauter par la fenêtre et complètement inconscient, qui a 4 mètres de vide sous ses pieds, ben moi, je ne lui dis pas « Oh mon chéri, tu veux bien ne pas sauter ?» Ben non, il aura déjà sauté. J'y vais, moi, je l'attrape peut-être parfois violemment, je le ramène vers moi, après je lui explique gentiment. C'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, on peut dire la même chose pour Mohammad Reza Shah, le fils du Pahlavi premier. Donc Mohammad Reza Shah, à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait plusieurs partis politiques, évidemment. Mais après, quand il a vu que le Hizb Toudeh, la gauche iranienne et la gauche islamiste, etc., qui mettaient les bâtons dans les roues de toutes les réformes du Shah, évidemment, à un moment donné, il a interdit. Il a interdit les autres partis. Je ne dis pas qu'il a raison. Il y en a qui disent que c'était une de ses plus grandes erreurs. Mais est-ce qu'il avait d'autres choix ? Quand, avec sa révolution blanche, il propose de redistribuer les terres des féodaux aux agriculteurs, pour moi, c'est quelqu'un qui est... C'est un socialiste, encore plus socialiste que les socialistes. Par contre, celui qui était contre cette réforme, c'était qui ? C'était Mohamed Mossadegh, par exemple. Oui. L'un des personnes qui était contre, parce que c'était un grand féodal lui-même. Donc oui, évidemment, pour faire des réformes parfois, quand on a une société qui n'est pas bien éduquée, et on a des ennemis de l'autre côté de la frontière qui sont là, qui guettent pour faire des choses contre le pays, eh bien évidemment, il faudrait parfois être dictateur.
Oui, c'est vrai. Comment l'imaginez-vous l'avenir de l'Iran ? Et à quoi ressemblerait, selon vous, un Iran libre ?
Alors, comment j'imagine, enfin, je souhaiterais un Iran avec la prospérité des années 60-70 en Iran, un Iran où la gauche et la droite cohabitent ensemble et ils mettent leur savoir, leurs idées pour le bien du pays et pas pour obtenir le pouvoir. Ce que je souhaiterais pour mon pays, c'est que l'opposition n'ait pas à faire des attentats terroristes, n'a pas à faire des attaques à main armée. Un pays sans prisonniers politiques, sans peine de mort, une sorte de Suisse et du Japon au Moyen-Orient.
Et, comme ça l'a été à l'époque.
Ça l'a été à l'époque et ça allait devenir. Mmh. Ça, c'est mon Iran utopique. C'est ce que je rêve pour mon pays. Et vraiment, j'aurais aimé, je rêve d'un monde où le Shah aurait pu aller jusqu'au bout de son programme de développement durable, jusqu'au bout de ses réformes pour voir à quoi ressemblerait l'Iran. Ça, c'est mon Iran que j'imagine. Mais pour y arriver, il faudrait quand même que les grandes puissances veuillent bien arrêter d'exploiter l'Iran, le Moyen-Orient, les pays du tiers-monde. Il faudrait qu'ils arrêtent de fabriquer des armes avec des dates de péremption, ce qui nécessiterait des guerres pour sortir à chaque fois de chaque crise économique. Il faudrait qu'ils réfléchissent à des relations commerciales équitables et correctes, pour qu'il y ait la prospérité partout. Dans le monde, il y a assez de richesses pour tout le monde. Mais c'est cette guerre de pouvoir qui fait que mon pays, l'Iran, se trouve aujourd'hui dans cet état-là. Par contre, je me réfère à son histoire. L'histoire de l'Iran montre que le peuple iranien a toujours réussi à surprendre le monde. C'est pas pour rien que je dis que l'Iran ressemble, la carte de l'Iran ressemble à un chat. Et le chat, on peut le jeter de n'importe où, il retombe sur ses pattes.
Il est résistant.
Et il résiste et il renaît de ses cendres, comme on a l'habitude de dire en Iran, comme le phénix iranien. Et cette fois-ci, là, on est dans une crise carrément, et puis je suis sûre que le peuple iranien d'aujourd'hui, avec son savoir-faire, il arrivera quand même à surprendre le monde, et je le souhaite de tout cœur.
C'est ce qu'on souhaite tous.
Oui.
Nous espérons qu'un jour, très très bientôt, nous pourrons tout voir ensemble un Iran libre. Merci beaucoup, Sepi Dejoum, pour votre présence et pour cet échange.
Avec plaisir, merci à vous tous. Merci à Radio Judaïka.
Merci beaucoup, Sepide. Merci à nos auditeurs. Merci, Sophia. C'était notre dernière émission. On ne sait pas encore si on sera dans la grille des programmes à la rentrée, mais on vous souhaite un bel été. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à présent. Et surtout, ne cessez jamais de parler de l'Iran. Que la lumière l'emporte sur les ténèbres.